Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Bruno Gagnère-Fontaini.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
C'est une région de Campanie en Italie que l'on a baptisée la Terre des Feux, en référence à ces milliers d'incendies qui pendant des années ont détruit en toute illégalité des montagnes de déchets industriels. Le feu, dernière étape du trafic d'ordures dont la Camorra, la mafia napolitaine, s'est rendue maître. Au début des années 2000, les images des rues de Naples, saturées par l'amoncellement de poubelles, avaient fait le tour du monde. Aujourd'hui, en Campanie, les déchets enfouis ou brûlés continuent d'empoisonner la terre et ses habitants. Selon le journal La Stampa, c'est l'un des plus grands désastres environnementaux de l'histoire de l'Italie. Alors pourquoi les mafias ont-elles pris les commandes d'une large part du trafic de déchets en Italie et avec quelles conséquences? Et qu'est-ce que ce business nous dit du fonctionnement de la mafia? Voilà les questions que nous allons poser à Clotilde Champerrache, maître de conférence en économie à Paris 8, et Fabrice Rizzoli, enseignant en géopolitique critique des criminalités à Sciences Po. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Clotilde Champerrache et Fabrice Rizzoli, bonjour.
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 Alors en Italie, le secteur des déchets est donc en grande partie contrôlé par les quatre mafias nationales. Cosa Nostra en Sicile, 'Ndrangheta en Calabre, Sacra Corona Unita dans les Pouilles et donc la Camorra en Campanie. Et c'est peut-être la Camorra, justement la mafia napolitaine, qui offre le cas le plus emblématique de cette mainmise sur la gestion des déchets, Clotilde Champerrache.
Oui, la Camorra, parce que c'est elle qui a été la moins discrète en fait dans l'exploitation de ce trafic de déchets illégaux. Parce que on a d'autres trafics, comme vous l'avez dit, avec les autres mafias italiennes, la sicilienne. Mais généralement, ces trafics étaient d'exporter des déchets ou de les jeter dans la mer Méditerranée. Donc, on voyait pas tellement le désastre. Alors que la Camorra, dans une logique véritablement de profit et au mépris de son propre territoire, c'est ça qui est un peu surprenant, a polluer ses propres terres en enfouissant des déchets n'importe comment, gérant des décharges abusives, etc.
La Camorra, Fabrice Rizzoli, c'est l'une des seules mafias en Italie qui a fait ce choix d'enfouir effectivement ces déchets sur son territoire ou de les brûler en plein air.
Oui, c'est celle qui l'a fait le plus et effectivement aussi de manière plus visible. Pour reprendre les chiffres, depuis 20 ans, grâce aux travaux donc de l'association Legambiente et puis aussi d'une thèse d'un universitaire, c'est 50% des déchets qui sont traités, des infractions à l'environnement qui ont lieu aux déchets, qui sont des mafias italiennes, et 60% sont sur le territoire du sud de l'Italie, donc dans les quatre grandes régions. Alors, c'est à la fois beaucoup, ce qui prouve que les mafias sont puissantes et savent faire, et en même temps, il faut quand même dire qu'il y a aussi énormément d'infractions liées aux déchets qui sont faites dans les territoires du Nord, à peu près 50%.
Alors, je le disais en introduction, on se souvient tous de ces images des rues napolitaines jonchées de déchets. Quels sont les déclencheurs de ces crises des déchets successives qui apparaissent donc en Campanie au début des années 2000, Clotilde Champerrache?
Alors en fait, là encore, il y a un peu le paradoxe de la visibilité. D'un coup, c'est devenu visible, et c'est au moins depuis les années 80 que la Camorra a infiltré ce secteur particulièrement rentable. D'abord, un des éléments déclencheurs, c'est paradoxalement la législation environnementale qui se durcit, c'est-à-dire des exigences au niveau européen pour les entreprises de mieux traiter les déchets et d'assurer que la filière permettre au mieux donc de gérer en particulier les déchets toxiques. Ensuite, ce qui va se greffer là-dessus, c'est un problème général en Italie et qui est un problème là plutôt étatique, c'est le manque d'incinérateurs. C'est-à-dire que l'Italie n'est pas autosuffisante pour traiter ses déchets.
Et particulièrement en Campanie?
Non, sur toute l'Italie.
Okay. Hein,
il y a un véritable problème. Il y a insuffisamment de déchets et ça fait des années que l'Italie exporte des déchets pour les faire retraiter ailleurs. Donc là, un problème de puissance publique. Et puis, il y a la crise des déchets à Naples qui naît aussi du fait que le ramassage des ordures n'a pas été fait. Donc, dans une ville hautement touristique, on a vu ces amoncellements de poubelles qui étaient plutôt des déchets domestiques. Donc, pas franchement le problème principal du traitement illégal des déchets.
C'est dans les années 2000, Fabrice Rizzoli, que véritablement on prend conscience du rôle que la mafia a dans ce trafic des déchets.
Je dirais déjà qu'à la moitié des années 90, tout d'abord parce qu'un collaborateur de justice déclare devant la commission parlementaire ce qu'on a résumé par les déchets valent plus que de l'or. Mais quand même, écoutez la citation originale, les déchets entrent dans la décharge et il en ressort de l'or. D'abord, c'est beaucoup plus poétique et ça veut bien montrer plutôt le processus de transformation entre déchets et or. Donc il le dit en 93, ça y est, il le dit au public, tout le monde le sait. En même temps, je rejoins complètement l'analyse qui est que je complète ici de l'effet ciseau, c'est-à-dire d'à la fois vous avez une augmentation exponentielle des déchets, société consumérisme, qu'on voit partout dans le monde et qu'on voit donc aussi en Italie, une augmentation des normes et aussi en même temps une absence de contrôle. De moins en moins, on met de l'argent pour contrôler ce type, notamment de trafic international, etc. Et dans cet effet ciseau, là, on voit que la criminalité organisée peut aller chercher l'opportunité et traiter les déchets. Quand même, sur les déchets ménagers à Naples, la crise des déchets à Naples, elle est due au problème des déchets industriels. C'est-à-dire que si les déchets ne pouvaient plus rentrer dans les décharges légales, les camions faisaient la queue. C'est parce que ces décharges étaient saturées, et elles étaient saturées parce qu'à l'intérieur, il y avait 80% de déchets industriels illégaux. Car on ne met pas des déchets industriels dans des décharges légales.
Donc la population l'apprend dès les années 90.
Il y a même un autre fait marquant qui est un peu de chronique purement italienne. En 1991, il y a un transporteur de déchets, Fabio Tamburino, je crois, qui meurt brûlé vif chimiquement en déchargeant son camion. Donc ça, c'est un retentissement énorme dans l'opinion publique italienne. On se dit, c'est pas possible qu'un homme meure simplement d'avoir fait son travail. Et c'est le début aussi d'une prise en compte, y compris au niveau associatif avec l'Ambiente, qui commence à s'attaquer au sujet, à publier un rapport annuel sur la situation des trafics environnementaux en Italie.
Et en 2008, les habitants incendiaient les poubelles en pleine rue. On se souvient de ces images, jeter des pierres sur les pompiers et barrer les rues avec des déchets. Si on lit les journaux italiens à l'époque, on a le sentiment qu'on était alors proche de l'émeute. Les autorités sont obligées de réagir, Fabrice Rizzoli.
Oui, enfin, elles réagissent, mais c'est à l'époque où Berlusconi va se faire sa petite élection sur les déchets et sur Alitalia aussi, c'est-à-dire qu'il va dire qu'il va militariser le territoire et construire des incinérateurs. Depuis, on n'a pas vu grand-chose. Donc la vérité, c'est qu'on a une population qui, contrairement à ce qu'on dit, si elle ne recyclait pas ses déchets, enfin le tri sélectif si vous préférez, c'est parce que la puissance publique ne jouait pas son rôle, c'est ce qu'a dit Clotilde Champérache. Ensuite, vous aviez des industriels du nord de l'Italie qui ont fait appel, eux, aux mafieux du sud pour enterrer leurs déchets dans le sud. Ça ne s'est pas passé dans le sens inverse. C'est pas les mafieux qui sont allés chercher les industriels, c'est les industriels qui sont allés dans le sud. Et vous avez donc une population qui est prise en otage. Et là, on rigole plus. C'est-à-dire que même si certains disent que le racket, c'est pas important, par exemple, là, les gens meurent de cancer.
Alors, pour bien comprendre, il faut peut-être entendre la voix des mafieux, justement.
T'as vu la décharge ? Celle qui est là-bas, là ? Oui, la décharge de Berlusconi avec le mur ? Exactement. Lundi, on va commencer à y mettre les déchets et personne d'autre n'aura le droit de l'utiliser. D'abord, on va y mettre les pneus. 50 000 mètres cubes de vieux pneus. Et après les élections du 16 avril, je te donnerai les autorisations pour y mettre des déchets normaux. Ensuite, le 17, on commencera. J'ai 40 000 tonnes de déchets pour toi. Emballés ou en vrac, ils s'en foutent.
Ouais, ok.
Par contre, tu fais attention, hein, tu gardes bien ça pour toi. Sinon, on va voir débarquer les communistes avec leur drapeau rouge. Bon, t'as vu le prix ?
Ouais, c'est un bon prix, non ?
Donc, tu y vas avec ton camion et tu fais ce que t'as à faire. Ils sont tous d'accord. T'as vu les noms ? C'est les maires des communes. On s'est mis d'accord pour éviter les ennuis avec les locaux, mais on doit faire attention. Donc pour le moment, on met les pneus. En ce moment, le sol est assez mou, donc toute cette semaine, moi, je vais déverser ce qui doit être au fond. Ensuite, toi, tu arriveras et tu mettras les déchets normaux par-dessus, comme ça, on montre qu'on ne jette pas de déchets toxiques.
Voilà, on vient d'entendre une conversation téléphonique entre deux trafiquants de déchets, conversation captée par la police en 2000 et diffusée dans le documentaire italien Beautiful Country quelques années plus tard. Qu'est-ce que cet extrait vous inspire, Clotilde Champérache ?
Ben, j'ai des goûts, évidemment. C'est vrai qu'il y a la question du prix, hein, qui va déterminer l'existence de ce marché. Les mafieux, parce qu'ils ne retraitent pas les déchets, proposent des prix défiant toute concurrence. Ça veut dire aussi complicité des industriels qui choisissent de baisser les coûts de production en étant tout à fait conscients que les prix proposés sont trop bas pour être réalistes. Complicité aussi, on parle du nom des maires. C'est vrai que dans les enquêtes de police contre ces délits environnementaux, il y a des arrestations de mafieux, il y a aussi des dissolutions de conseils municipaux qui ont été infiltrés par la mafia, dont on sait qu'il y a des... Enfin, que c'est vraiment une filière avec plein d'acteurs différents. Tous ne sont pas mafieux, mais tous profitent du système mis en place par la mafia.
Fabrice Rizzoli, on entend vraiment ces complicités dans
oui.
cet extrait.
Tout d'abord, merci à l'Italie de nous prêter des écoutes téléphoniques. J'aimerais bien que ça soit la même chose en France. Vous voyez que ça permet d'avoir de l'étude scientifique et d'informer le public. On a une discussion, même pas entre mafieux, hein. On a une discussion entre un entrepreneur du Nord qui passe commande à un espèce de broker, un stakeholder qu'on voit très bien dans le film de Gomorra, qui lui fait l'interface avec les mafieux qui ont les camions, etc. et qui ensuite enterre les déchets. Et surtout, on a une discussion d'ordre juridique. On est dans la géopolitique critique, c'est-à-dire que vous avez un secteur légal qui passe un contrat. C'est-à-dire qu'il va y avoir un contrat pour recycler des déchets. Et après, on vous dit aussi qu'on va les mettre dans la rue et selon une stratégie qui est très intéressante, c'est-à-dire vous mettez les choses qui brûlent moins en dessous, puis vous mettez les déchets ménagers au-dessus, donc déjà c'est moins visible, ça commence à brûler, puis après, les pneus brûlent, et là ça brûle pendant très longtemps, les déchets toxiques qui sont... On va voir une espèce de savoir-faire qui est quand même extrêmement inquiétant. Mais encore une fois, là, on a vraiment une dimension légale qui est intéressante. Regardez comment aussi ça arrive en Italie, alors qu'elle est en avance sur les lois pour recycler les déchets, c'est les décrets Ronchi de 96, je crois, à vérifier, et surtout dans un tissu industriel fait de PME-PMI, où la marge est beaucoup plus difficile à faire que dans les grands groupes, et où donc, à un moment, quand on leur dit que ça va leur coûter 30% plus cher en faisant recycler leurs déchets, ils peuvent être tentés, je ne les justifie pas, ils peuvent être tentés d'aller dans la filière illégale. Ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les grands groupes qu'on attrape pour le trafic de déchets.
Parce que j'allais ajouter, c'est pas que les petites entreprises, il y a des grandes entreprises, y compris des entreprises publiques. Hein. Les bouts des dépurateurs de Venise et de Forlì ont été aussi dans le viseur de la justice.
Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que ce sont les matières les plus polluantes, notamment les résidus issus de la métallurgie et de la sidérurgie, qui coûte le plus cher à retraiter. Et c'est pour ça qu'effectivement, de plus en plus d'entrepreneurs font appel à la mafia qui leur propose des tarifs bien inférieurs. Et on parle de complicité parce qu'avec des tarifs aussi bas, ils ne peuvent pas, pour certains, ne pas se douter que ce ne sera pas fait dans les règles de l'art.
Tous savent. Parce que forcément, ils vont se renseigner sur le marché des prix disponibles. Et quand on a des différences, parfois des rabais de 80%, on peut pas faire semblant de ne pas savoir. Un petit chiffre pour l'exemple, parce que ça, on va aussi aborder, je pense, la question de la classification des déchets. Une tonne de déchets ordinaires, c'est dans les 400 euros. Une tonne de pyralène, qui est très utilisée dans l'industrie électronique et électroménagère, c'est 2000 euros. Donc forcément, si vous arrivez à déclassifier votre déchet, vous faites une économie substantielle.
Et on le disait au début, ça ne concerne pas que le sud de l'Italie. On a des déchets qui viennent du nord industriel de l'Italie et aussi du reste de l'Europe qui arrivent en compagnie.
En l'occurrence, dans les enquêtes, Clotilde Champerrache a très bien fait de rappeler que les industries du nord aussi se sont mis, et les établissements publics, etc. On a retrouvé leurs déchets dans le sud de l'Italie, mais on a retrouvé aussi des déchets qui venaient d'Allemagne, de Monaco, etc. Ce qui a donné d'autres enquêtes journalistiques. Il y en a une qui est sorti sur Arte il n'y a pas longtemps. Voilà, il faut regarder ça. C'est une dimension européenne, donc on a parfois un peu de facilité, parce que l'Italie est transparente, parce que c'est un laboratoire, parce qu'il y a la mafia, de stigmatiser, je dis ça comme ça, l'Italie, parce qu'on voit les choses, mais c'est un problème européen et mondial. Sinon, il n'y aurait pas des problèmes au Ghana, en Chine, ou etc., où les Européens, les grands pays industriels déversent leurs déchets à moindre coût.
Et alors, très concrètement, comment est-ce que ces mafias captent ces marchés? Comment est-ce qu'elles remportent les appels d'offres quand l'argument économique ne suffit pas? Est-ce que ça passe par des pressions, des intimidations?
Alors, quand elles cherchent les marchés au nord, même pas besoin. Vraiment, l'argument des prix est très important dans un contexte concurrentiel, de pression. C'est vrai que les entreprises dénoncent souvent la pression fiscale, etc. Donc, c'est une façon de diminuer les coûts de production. Ce que font aussi les mafieux, c'est qu'ils ont toute une équipe d'intermédiaires qui vont aussi chercher les marchés et qui proposent des prix bas et souvent aussi un package. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, nous, on vous assure tout du début jusqu'à la fin. Vous ne vous occupez de rien. Vous n'avez pas seulement à choisir l'entreprise qui va traiter vos déchets, puis une entreprise de transport, etc. Nous, on vous fait tout.
Et alors ensuite, ces déchets sont bel et bien collectés. Et là, il s'agit pour les mafias de s'en débarrasser le plus vite possible et à moindre coût. Et donc, on les abandonne, par exemple, dans les rivières, les cavernes, les champs, ou alors on les brûle, Fabrice Rizzoli.
Il y a une typologie du traitement mafieux des déchets qui est assez intéressante. Vous avez, bien sûr, la possibilité de brûler, vous l'avez entendu dans la conversation téléphonique, et vous avez rappelé la terre des feux. Alors là, quand même, on le donne aux Roms. Hein, vous voyez, c'est-à-dire le dernier roue de la carrosse de la chaîne criminelle. D'ailleurs, pas tant criminelle que ça. On paye des gamins et ils brûlent. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter ces routes pleines de déchets à Naples. Et au bout de 5 minutes, j'avais un camion, un fourgon qui me passait à côté à tout à l'heure, qui était conduit par des Roms. Donc, c'est eux qui gèrent cela. Vous avez d'autres critères, enfin d'autres types de la typologie. Une qui est assez géniale, c'est d'abandonner les déchets dans des hangars qui en fait, on ne connaît plus bien le propriétaire parce que souvent, ce sont des anciennes sociétés. Je renvoie toujours au secteur légal. La personne a déposé le bilan, etc. Donc, tout est fermé, cadenassé à clé. Eux, les mafieux, arrivent à mettre les déchets. D'abord, on ne voit pas qu'il y a des déchets pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Et puis quand la police arrive et voit, parce qu'en général, il y a les militants environnementaux qui viennent dénoncer ça ou des riverains, etc. Eh bien, quand on doit rechercher à qui appartenait le hangar, en fait, c'est un casse-tête parce que l'ancien propriétaire a pu mourir, parce qu'il a changé 3 fois d'entreprise. Donc l'abandonnement dans le hangar. Et vous avez raison de rappeler qu'on peut les abandonner malheureusement dans le lit des rivières, là où on prend le sable. On va l'abandonner dans des endroits où on prend la pierre pour faire du ciment. Donc, c'est pour ça qu'en géopolitique, on appelle ça un cycle. C'est-à-dire, en fait, ça alimente. Le déchet vient remplir les cavités desquelles on a pris illégalement l'excavation du matériau, de matières premières pour faire de la construction. C'est le cycle du ciment qui alimente le cycle des déchets.
Ce qui pose évidemment des questions environnementales et sanitaires sur lesquelles on va revenir. Mais Clotilde Champérage, d'abord, sur ces différentes techniques de destruction des déchets.
Oui, alors d'autres techniques aussi. Hein, et là, on va rejoindre l'agriculture et plus le ciment, c'est les boues toxiques qui ont été quand même... Alors déjà, la mafia est payée pour soi-disant retraiter ces boues toxiques et elle les revend sous forme de fertilisants. Donc là, on a empoisonné des terres et on entre dans un nouveau cycle, c'est-à-dire que les terres produisent mal. C'était quand même la région de Naples, de Caserte, etc. Une terre très productive, hein, terre agricole de bonne qualité. Les fruits et légumes commencent à avoir des têtes un peu bizarres. La mozzarella devient bleue. Et les paysans finissent par vendre leurs terres à prix cassé parce qu'elle n'a plus de valeur agricole. Et les mafieux s'en emparent pour en faire des réserves, des charges encore à ciel ouvert.
Et puis on envoie aussi des déchets dans des décharges officielles, mais en principe interdits aux produits toxiques, donc avec de fausses autorisations. Et certains déchets, enfin, sont envoyés en Afrique, notamment en Somalie.
Oui, vous avez raison de rappeler l'histoire de l'autorisation dont on a un peu parlé. Mais là, c'est quand même le tour de magie assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le camion secteur légal prend le déchet qui est censé être industriel, mais par la corruption de l'expert, de l'organisme qui est censé contrôler, etc., il transforme l'étiquette et de déchets dangereux, on passe à déchets non dangereux et ça atterrit dans la décharge de déchets ménagers. Il faut rappeler quand même cette corruption et ce tour de magie qui est important. La commission parlementaire sur les déchets, dans les années 70, avait déjà démontré que des bateaux avaient été coulés avec des déchets toxiques dans la Méditerranée. Donc, d'abord dans la Méditerranée, puis au large de l'Éthiopie, de la Somalie, etc. Et donc, l'Afrique peut servir aussi de réceptacle. Il y a des enquêtes qui le démontrent.
Bateaux coulés avec leurs déchets toxiques et dont les mafieux, après, demandaient l'assurance parce qu'il y avait eu naufrage accidentel. Mmh. Donc, vraiment, on est dans le profit... maximiser.
Et alors, le business est d'autant plus intéressant pour la Camorra, puisqu'on parle d'elle en l'occurrence, parce qu'elle capte ensuite les marchés de dépollution des terrains contaminés. Et là, on peut dire que c'est emblématique du fonctionnement de la Camorra et peut-être des mafias en général, créer le problème et ensuite se présenter comme la solution.
Oui, ça fait aussi partie de sa façon de faire. C'est aussi pour ça que dans la région de Naples, la Camorra, on ne l'appelle plus comme ça, on l'appelle le système, parce que tout fait système et on est dans une circularité où de toute façon... où qu'on se tourne, on va finalement se retrouver face à cette Camorra. Quand il y a eu le problème des incinérateurs qui manquaient, la crise des déchets à Naples, effectivement, Berlusconi a dit, ça y est, les incinérateurs, on va les avoir en 3 mois, on va vous construire ça. La population n'était pas complètement pour ces incinérateurs. Pourtant, elle avait envie qu'on la débarrasse de ses poubelles, mais elle se disait, de toute façon, c'est aussi la Camorra qui va construire, qui va mal construire, et les problèmes ne vont pas être réglés.
Et tout cela avec en effet des conséquences donc sanitaires et environnementales considérables. Et d'abord, vous l'évoquiez, Fabrice Rizzoli, une hausse dramatique des cancers chez les habitants résidant à proximité des décharges illégales. On parle même du triangle de la mort pour désigner les villes de Giuliano, Qualiano et Villa Rica.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences vraiment extrêmement importantes pour la population, avec des cancers, des enfants qui meurent très très jeunes, etc. Donc la société civile quand même s'est un petit peu mobilisée. Les Gambiens, qui est une grosse association environnementale qui était partie d'abord de la lutte contre le nucléaire. Je voudrais juste faire cette petite parenthèse parce qu'encore on va se moquer de l'Italie. Enfin, je rappelle quand même que l'Italie a fait le choix du non-nucléaire et qu'elle, au moins, elle n'aura pas Fukushima et que la France a 53 réacteurs nucléaires et qu'elle ne sait pas quoi faire de ses déchets ni de ses décharges qui vieillissent. Je voudrais quand même le dire. Et donc, une fois que ça s'est mobilisé, les grandes enquêtes de la magistrature ont pu montrer tout ça. Mais le problème, c'est que c'est un système, pas seulement un système criminel, c'est tout le système légal, cette surproduction de déchets, le manque de tri sélectif qui a progressé dans la ville de Naples, pas du tout dans l'arrière-pays de Naples, mais qui a progressé dans la ville de Naples. C'est un système, et quand on lutte contre un système, il ne faut pas taper seulement contre la mafia, il faut regarder tout le système économique.
On va y venir à ce système économique et le fait que les mafias sont situées en effet entre le légal et l'illégal. Mais il faut d'abord dire peut-être que le bétail est également contaminé. 6000 vaches qui sont abattues en 2003 à Caserte et les conséquences notamment sur l'agriculture, comme on commençait à l'évoquer, sont dramatiques. Les agriculteurs qui sont bien obligés souvent de fermer les yeux ou d'être complices.
Je faisais un beau trou dans un de mes terrains, d'une profondeur de 10, 15, 20 mètres, large disons de 300 mètres par 300, et je balançais tout ça dedans. Ça ne me coûtait rien. Je prenais, je remplissais et je recouvrais. À l'époque, c'était délire. Pour traiter les déchets, par exemple, il fallait entre 1 et 2 millions de lire en fonction de la substance toxique. Et avec les clans, ça ne coûtait que 200 000 lire.
Vous le saviez ?
Oui, oui.
C'était des rumeurs ?
C'était des rumeurs, mais tout le monde le savait.
Et pourquoi vous n'avez rien dit ?
Et qu'est-ce qu'on pouvait dire, nous ? On a créé des comités, mais la loi leur donnait presque toujours raison. Moi, en simple citoyen, qu'est-ce que je pouvais faire ? Le mafieux serait arrivé, il m'aurait tué direct. C'est facile de parler.
Le témoignage d'un repenti suivi de celui d'un agriculteur, extrait d'Envoyé spécial diffusé en 2014. Clotilde Champérache, on voit bien que soit les agriculteurs en tirent un bénéfice économique en enfouissant les déchets dans leurs champs, soit ils ont tout simplement trop peur pour parler.
Oui, et ça c'est à la base de la définition dans le code pénal italien de ce que c'est une mafia, c'est le lien d'assujettissement et d'omerta qui découle de l'association mafieuse et de son emprise sur un territoire. On a vraiment contrôle du territoire, contrôle de la population, contrôle des ressources, contrôle de la parole sur ces territoires-là. Et puis, encore une fois, c'est une criminalité de la quotidienneté. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de criminalité déviante où on peut avoir les criminels d'un côté et puis les gens honnêtes de l'autre. Non, la personne honnête va être confrontée aux mafieux au quotidien.
C'est aussi en jouant sur cette terreur, Fabrice Rizzoli, que cela fonctionne.
Oui, sur la terreur, sur le mensonge, mais encore une fois avec la terreur enfouie. C'est-à-dire vous pouvez aller voir un agriculteur qui a de plus en plus de mal à vivre parce que le prix des agrumes, etc. a considérablement baissé, parce que vous avez une concurrence féroce, vous avez du dumping social, agricole partout, y compris en Europe. Voilà ce qui alimente le système d'un agriculteur qui a du mal sur des terres les plus fertiles d'Italie. Donc c'est quand même dommage. Puis vous avez... même pas un mafieux, encore une fois. Un représentant de mafieux, un intermédiaire, un stakeholder qui vient dire, écoute, j'ai besoin, là, allez, de 10% de ton terrain pour entreposer quelque chose. On lui dit pas, par exemple, ça va rester pendant 40 ans. On lui dit, on viendra le chercher plus tard. Bon, on lui donne une petite aumône, etc. Puis le truc s'installe, et puis après, ça sointe, puis après, il y a la pollution, puis un jour, la magistrature arrive et tout. Voilà un profil qui peut être pas totalement complice ou terrorisé. Mais le contrôle du territoire mafieux et ce système qui crée les gens dans la dépendance, dans les inégalités sociales, fait qu'on peut accepter des offres qu'on ne devrait pas accepter.
Clotilde Champéry.
Oui, d'ailleurs, moi, j'emploierais même pas le terme de terreur sur les territoires de mafia. La terreur, c'est le début. On fait peur, on s'installe, on crée un pouvoir. Là, on n'en est plus à cette phase-là. La mafia, elle est mature, elle n'a plus besoin d'exercer la terreur, elle a le pouvoir.
Et le plus paradoxal peut-être, c'est que les paysans finissent par refuser la création de décharges officielles.
Je suis agriculteur, je produis des cerises, des nèfles, des abricots, des fruits en général. Ça c'est ma maison.
Et la décharge doit se faire où?
Par là, à environ 100 mètres d'ici.
Mais non.
Là-bas, c'est la carrière qui devrait servir de décharge. Mais on espère que non. Depuis 2005, c'est devenu un parc. Ils ont encaissé des subsides européens pour en faire un parc, le parc des collines de Naples. Ici, avec le vent, on reçoit même le sable du désert. Vous imaginez ce qui va arriver avec la puanteur de Caiano? Je ne pourrais pas accoler mon nom, mon entreprise, ma terre à ma production. Je ne vendrai pas des cerises imprégnées de dioxine ou de Dieu sait quoi encore.
Le témoignage d'un producteur de fruits et légumes en 2008 qui s'inquiète de voir s'installer une décharge légale à quelques mètres de son exploitation, décharge qui a finalement en effet été créée. Mais ce qu'on voit, c'est que certains paysans préfèrent paradoxalement enterrer de façon illicite des déchets dans leur jardin plutôt que de voir une décharge officielle débarquer à proximité de chez eux et qui risque peut-être de leur faire perdre, leur valeur à leur production agricole.
Alors là, il y a un mélange de plein d'intérêts différents. C'est vrai que d'un côté, il y a la défiance, c'est-à-dire la décharge légale. L'État n'est pas en mesure de nous garantir qu'elle sera effectivement aux normes, qu'elle ne sera pas exploitée par derrière par des fausses entreprises de retraitement des déchets. Et puis, à côté, on accepte des décharges abusives parce que là, au moins, l'argent va dans la poche de la personne. C'est-à-dire, on est payé pour le faire. Et puis, on se dit, toute façon, ma terre est pourrie. Donc, si je peux tirer un petit bénéfice, ça sera plus par l'agriculture.
Et certains paysans témoignent en disant « Moi, je respecte les tests et résultats. Je ne peux pas vendre mes produits qui sont considérés comme toxiques, alors que d'autres ne les font pas, ces tests-là, Fabrice Rizzoli. »
Le problème, c'est que dans une criminalité systémique, il n'y a pas de place, y compris pour la personne honnête. C'est le vrai problème. De toute façon, mettez-vous à la place de l'agriculteur. Vous aviez avant une politique en Italie, parce qu'il y avait un problème de politique publique des déchets, une stratégie qui était tout à la décharge. Ces décharges sont saturées, les choses volent au vent, on découvre des déchets industriels, ça sointe le sol. Comprenez que la solution au problème des déchets, lorsqu'on vous dit que ça va être une nouvelle décharge de déchets à côté de chez vous, les gens n'en veulent pas, c'est la première chose. Mais même sur les incinérateurs. Pensez sincèrement que l'incinérateur va régler les problèmes quand on voit que le peu de thermovalorisateurs, j'adore le terme, ultra-moderne qui devait être construit, a tout englouti de l'argent public et ne recycle rien, excusez-moi. Quand vous avez des grands groupes, y compris, pour ne pas les citer, français de l'eau et du déchet, qui s'installent en Calabre avec des fonds publics qui bénéficient de près de la banque et à la fin, ça tourne pas, et à la fin, ils s'en vont, comprenez que les gens sur le territoire n'aient ni confiance à la puissance publique, ni aux multinationales, et que du coup, le mafieux qui va lui donner un tout petit peu pour enterrer des déchets, va le prendre.
Guardate sto figlio mio, quant'è sti bello. Mamma senti
regardez mon fils, il a les yeux d'un parrain de la mafia et le cœur pur de sa mère », chante cette mère calabraise qui exhorte son fils à venger la mort de son père et à garder l'honneur de la famille. Une chanson donc très pro-mafia intitulée « Nina Nana Malendrinou Nedou ». Vous la connaissiez, Clotilde Champérage?
Oui,
Clotilde Champérage.
Bah, ça fait partie d'une série de CD « Musica della mafia ». En fait, ce n'est pas la mafia sicilienne, c'est les chants calabrais populaires qui font qui parlent de la gloire de la mafia, qui exaltent un peu les valeurs mafieuses. Et ces CD ont été édités en Allemagne et ils sont interdits de vente en Italie parce que justement on considère que le contenu des textes est contraire à la loi.
Fabrice Rizzoli.
Oui, on a vraiment ici peut-être un paradigme, un cas d'école de ce que c'est que le consensus social quand on étudie les mafias italiennes du point de vue des sciences politiques. On a parlé de la violence, on a parlé des complicités politiques, on a parlé de l'accumulation du capital par le trafic de déchets et l'implication dans l'économie légale. Et vous avez aussi le consensus social dont on a déjà un petit peu abordé, ce qui fait que les gens sont mi-honnêtes, mi-corrompus, et puis finalement ils acceptent les propositions de la mafia. Au point que vous ayez des gens qui sont pas forcément avec la mafia, qui transforment des chants populaires et qui revendiquent le fait qu'il faille venger son fils, utiliser la violence, ne pas aimer les policiers. Tout un modèle qu'on vous explique. Et ça traduit quand même en général la puissance aussi d'une mafia. Faut pas s'intéresser qu'à ça, mais c'est un bon révélateur.
On parle des mafias, des déchets sur France Culture dans Entendez-vous l'écho avec Clotilde Champérage et Fabrice Rizzoli. Et il faut dire que ce qui caractérise également la mafia, c'est qu'elle se situe aux frontières, donc entre l'économie illégale et l'économie légale.
Ce business naît du crime. Hôtels, restaurants, supermarchés ont été construits et sont des propriétés du clan des Mondragoni. Activité parfaitement légale qui rencontre un succès. Les restaurants de ce clan figurent dans les guides touristiques les plus célèbres. Et par conséquent, c'est comme une vitrine honorable. L'aspect criminel n'apparaît pas dans ce que j'appelle ce deuxième niveau d'investissement. En plus, la presse locale, je veux parler des journaux de Naples et Caserte, est très attentionnée à l'égard des activités de la Camorra. Je parlerai même d'une attention absolue.
Une interview de l'écrivain Roberto Saviano diffusée sur France Inter en 2007. Alors comment cette infiltration dans l'économie légale a-t-elle eu lieu au départ, Clotilde Champérage?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dès la naissance des mafias, elles ne sont pas que dans la sphère illégale. Elles sont même plus présentes dans la sphère légale que dans la sphère illégale, puisque les activités premières, c'est de l'intermédiation, notamment sur les marchés de gros, c'est du gardiennage de champs agricoles. Donc il y a une connaissance de l'économie légale qui est présente dès le début. Une insertion.
Dès le début constitue
au 19e siècle. Et il y a une insertion dans la société civile. Encore une fois, le mafieux, c'est pas le déviant, c'est celui qu'on va voir aussi dans le village. On sait qui il est. C'est lui qui va résoudre des différends, notamment quand on considère que les carabiniers vont être lents, qu'ils vont mal faire leur travail. On se tourne vers le mafieux. Donc, une présence déjà bien insérée.
Mais c'est à partir des années 70-80, peut-être, que la mafia investit massivement dans des entreprises légales.
Après, il y a la possibilité, parce qu'au départ, c'est un système féodal, donc il n'y a pas d'accès direct à la propriété privée. Peu à peu, on va plus en plus prendre le contrôle sur les entreprises parce que ça devient possible avec le système capitaliste, parce qu'il y a de l'argent aussi qui vient de trafics illégaux. Et puis, on comprend vite que par la maîtrise du légal, on va créer une zone grise où le pouvoir mafieux va devenir omnipotent.
Et dans les années 70, cet argent est accumulé grâce à différentes choses, notamment d'abord ce choix de la mafia de reconvertir son savoir-faire en matière de trafic de cigarettes dans celui qui est plus rentable des stupéfiants, et puis aussi le terrible tremblement de terre de Naples en 1980, puisqu'on parle toujours de la Camorra, qui entraîne d'immenses opportunités en termes de reconstruction pour la Camorra, Fabrice Rizzoli. Elle se construit ainsi une fortune.
Il y aurait énormément de choses à dire. Je vais le dire autrement. Dans Le Parrain 2, quand Robert De Niro jeune tue le chef pour devenir le chef, son premier truc dans Le Parrain, dans le film, c'est de créer une société d'import-export d'huile d'olive. C'est pas pour le folklore. Le légal vous permet de basculer dans un monde auquel vous avez accès à la banque, au comptable, au géomètre. Et on en arrive donc plutôt que la zone grise pour moi au concept de bourgeoisie mafieuse, c'est-à-dire l'unique manière d'expliquer la pérennité de la mafia, c'est l'idée d'un corps social. C'est-à-dire, vous avez les mafieux sur lesquels on s'attarde, le pouvoir de violence, etc. Ils ne sont rien sans leurs avocats, ils ne sont rien sans l'homme politique, ils ne sont rien sans les intermédiaires, ils ne sont rien sans le système légal. C'est un corps social qui s'auto-alimente, qui se reproduit. Et vous avez raison de dire peut-être qu'il y a une bascule, en gros, dans les années 60, qui correspond au fait que l'accumulation illégale devient très importante par le trafic de drogue, en gros, et que cet amas de cash, faut bien en faire quelque chose. Et donc, on investit massivement dans l'hôtellerie-restauration et dans plein d'autres domaines. Pour la Camorra, vous avez raison de rappeler le tremblement de terre, qui l'a fait que c'est de l'argent public, c'est dans l'autre sens que c'est venu. C'est pas l'argent de l'illégal qui est venu dans le légal, c'est l'argent du légal qui est venu. Et là, ils ont créé des sociétés, en gros, de terrassement, de ciment, de béton pour la reconstruction.
Claudine Champérage.
Alors moi, je parle pas de bascule, justement, parce que il y a cette présence dès le début, c'est-à-dire que la mafia n'a jamais...
C'est une évolution.
Voilà, elle ne s'est pas développée dans l'illégal pour ensuite réellement entrer dans l'économie légale. Elle a toujours mené de front cette double sphère, cette double casquette légale et illégale. Et ça aussi, ça apparaît dans le code pénal italien. On vous dit qu'il y a des délits, bien sûr, mais il y a aussi le conditionnement du vote politique. Et conditionner le vote, c'est aussi pour s'emparer des marchés publics. Donc quand le tremblement de terre a lieu en Campanie, les industries du bâtiment, elles sont déjà sous la coupe mafieuse. Donc bien sûr, il y a cet afflux de capital, de cet argent public, mais il y a aussi toute la politique d'aide au Mezzogiorno qui est mise en œuvre, qui va à financer la mafia.
Et alors, il y a différentes stratégies. Longtemps, la mafia crée ex nihilo des entreprises qui servent ses objectifs. Mais en 1982, il y a une nouvelle loi qui permet la confiscation des entreprises appartenant à la mafia. Et alors, à ce moment-là, elle se transforme en quelque sorte et cherche à prendre le contrôle d'entreprises existantes. Il y a un changement de stratégie ?
Oui, il y a une adaptation. Mais ça, la mafia est très adaptable. Elle évolue en fonction de la loi. C'est vrai que en 1982, c'est un peu une révolution législative en Italie parce que justement le code pénal italien définit le délit d'association mafieuse, alors qu'avant c'était association de malfaiteurs qui était appliqué. Les mesures de confiscation des patrimoines mafieux vont avec. Alors là aussi, on pouvait déjà confisquer depuis 65, mais c'était plutôt dans la loi contre le terrorisme. Mais là, on l'associe. Si vous êtes condamné pour association mafieuse, et ben du coup, on va s'intéresser aussi à votre patrimoine et on peut le confisquer. Et on peut confisquer aussi bien de l'illégal que des entreprises légales. Donc ça aussi, c'est un instrument
important. Vous avez raison de rappeler 82. 1982 nous permet de dire que l'Italie a les meilleurs outils juridiques au monde pour lutter contre la mafia. J'en veux pour preuve que depuis 1991, une commission parlementaire de la lutte contre les moyens de tentative de la pénétration en mafia en France demande le délit d'association mafieuse en France, qui n'y est toujours pas. Non seulement le délit d'association mafieuse est révolutionnaire parce qu'il dit que les gens qui font la violence en groupe, assujettissement, ce qui a été très bien rappelé, doivent donc être poursuivis pour le seul fait d'être en association et s'ils font des affaires légales, pas illégales, des affaires légales. Parce qu'évidemment, les affaires illégales, elles sont déjà poursuivies par le code pénal. Mais c'est des affaires légales qu'il s'agit dans le délit d'association mafieuse. Et la confiscation est obligatoire. Le juge ne peut pas, le juge doit confisquer tous les avoirs. Et alors là, évidemment, c'est aussi une confiscation révolutionnaire qui permet de lutter contre l'impunité due au blanchiment, que je pourrais expliquer, mais franchement, c'est... Voilà. L'idée, c'est que les personnes ne sont pas toutes devant un procès pénal qui est long, coûteux, avec une présomption d'innocence très importante. Et c'est normal, quand on risque la prison, c'est normal. En revanche, tous leurs biens vont devant le tribunal administratif et ces gens, y compris les complices, les avocats, etc., doivent justifier l'origine légale de leurs biens. Et là, ça change tout. Et c'est comme ça que l'Italie confisque des milliards d'avoirs et il faudrait se doter de ce type de confiscation en France, comme le demande la commission crime du Parlement européen.
Claudine Champérage.
Et c'est en ça que je parlais tout à l'heure d'économie grise. C'est pas une économie souterraine, informelle. C'est le fait que le légal et l'illégal sont tellement imbriqués avec les mafieux que même la partie légale n'est plus... on ne peut plus la réinsérer dans le strictement légal. Il faut casser aussi cette logique-là de l'égalité et ne pas espérer qu'il y ait une potentielle rédemption du mafieux par l'activité légale.
On voit en tout cas que la mafia se caractérise par une polycriminalité. Le trafic de déchets, finalement, c'est l'une de ses activités parmi d'autres. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler d'éco-mafia ? Qu'est-ce que ce terme vous inspire ?
Alors, Effectivement, une mafia, par définition, n'est jamais spécialisée dans un seul business. Elle va cumuler plein de choses. Et pour ça, la Camorra a une capacité à développer des business absolument ahurissantes. Le terme écomafia, il a été inventé par Legambiente dans un de ses rapports.
Donc cette association environnementaliste.
Voilà, qui a vraiment dénoncé tous les crimes environnementaux qui sont en Italie, qui publie tous les ans un rapport très précis, très intéressant. Et c'est aussi un terme un peu pour attirer l'attention des médias. Hein. C'est-à-dire que écomafia, quand on regarde, quand ils définissent un peu le terme, ils savent bien qu'il n'y a pas que la mafia derrière ces trafics. Ils vont dire que c'est la criminalité, que c'est aussi des institutions publiques hein, qui sont criminelles, enfin, qui ont des comportements illégaux. Donc, ce n'est pas que la mafia qui est dénoncée dans l'écomafia. C'est toute une chaîne de comportements qui nuisent à l'environnement.
Ces entreprises légales, en tout cas, sont aussi un enjeu de puissance. Ça permet d'affirmer son pouvoir sur un territoire donné. Cette notion de territoire, elle est importante parce que ce qu'il faut souligner, c'est que ces liens économiques, politiques fonctionnent surtout tant qu'on se situe à l'échelle d'un territoire donné, en l'occurrence la Campanie. Et c'est notamment parce qu'elle crée de l'emploi que la Camorra est si bien implantée localement. Écoutons à nouveau Roberto Saviano.
Tous les boss, tous les entrepreneurs de la Camorra, quand ils prennent la parole, ont toujours des propos ambigus et tous, quand ils sont arrêtés, adoptent, comment dire, une sorte d'attitude incrédule. Ils disent, c'est un territoire où j'ai le consentement de tous, un territoire où j'ai le pouvoir, des avantages, je distribue du travail. Pourquoi dois-je être arrêté? Quel est le crime que j'ai commis?
Roberto Saviano, on voit que la mafia réussit à emporter l'adhésion des populations locales dans des zones qui sont marquées par un fort taux de chômage. Fabrice Rizzoli.
Ah oui, on pourrait en discuter des heures de cette expression de la mafia crée des emplois auxquels je ne crois pas. Je pense plutôt qu'elle
Pourquoi en fait perdre.
Bien, tout d'abord parce que elle tue la concurrence. Alors, par définition, elle, bien sûr qu'avec l'argent sale, par exemple, elle va s'acheter un hôtel. Et bien sûr qu'elle va, ce que moi je dis plutôt, donner du travail. Et que c'est une des fonctions de l'investissement dans l'économie légale, c'est-à-dire que le mafieux se balade sur le territoire et dit « ces gens-là travaillent pour moi, je donne du travail ». Mais en réalité, un hôtel en face n'aura pas le droit de se construire. Donc de toute façon, si le territoire voudrait se développer et créer plus d'emplois, eh bien ça ne serait pas possible. Pour rappel, vu le taux de chômage, et en particulier des jeunes qui sont en Italie du Sud, je ne vois pas comment on peut dire que la mafia crée de l'emploi. Donc c'est plutôt du consensus, Roberto Saviano le dit très bien, mais les avantages de l'économie légale pour les mafieux sont multiples. Il y a le blanchiment, c'est très très important, la position d'intermédiaire, d'avoir accès, on l'a dit tout à l'heure, aux clients, aux fournisseurs, etc. Le contrôle du territoire, parce qu'à partir du moment où on dit « c'est moi qui ai changé toutes les vitres de l'école primaire », ben, on est un peu chez soi, ça c'est une évidence. Le pillage des ressources publiques, parce que les fenêtres de l'école primaire, elles ont été faites avec nos impôts, hein, pas avec l'argent des mafieux. Et bien sûr, le consensus social dont on a déjà parlé.
Claudine Chamberrache, sur cette question du consensus social qui peut-être rend plus difficile cette lutte contre les mafias, notamment comment se battre contre une entreprise légale tenue par des mafieux, si on sait tous les emplois que ça peut
supprimer. Il y a une tolérance qui se fait à partir de cet argument, et c'est vrai que la mafia, quand elle infiltre des entreprises légales, elle va choisir des entreprises qui emploient beaucoup de main-d'œuvre, si possible de la main-d'œuvre peu qualifiée, parce que ce sont des régions effectivement en difficulté. C'est typiquement le bâtiment, les services, l'agriculture, donc hautement intense en capital humain non qualifié. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'économie légale mafieuse qui se développe, c'est aussi une économie d'expropriation. C'est-à-dire que les entrepreneurs non mafieux qui n'entrent pas dans des rapports de complicité vont être peu à peu poussés hors du marché, vont ne plus, par exemple, dans le BTP, avoir accès aux appels d'offres, ne plus jamais décrocher de contrat. Donc, ils vont peu à peu soit se retirer du marché, soit effectivement développer des liens avec la mafia.
Développer des liens, c'est aussi une nécessité pour construire une puissance économique. Il faut créer des liens avec les responsables politiques et ça a été facilité peut-être par la décentralisation qui a accordé des pouvoirs de décision accrus aux élus municipaux et régionaux.
En ce qui concerne la présence de la Camorra, ces dernières années, l'État italien, avec ce qui s'est passé dans la région de la Campanie, a prouvé que la lutte contre la Camorra n'a jamais eu lieu. Où étiez-vous quand la Camorra déversait les déchets dans la carrière? Il y a eu 10 années de plaintes, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, d'associations environnementales citoyennes, mais personne n'a bougé. Le citoyen devrait, comme dans un pays normal, penser à aller s'amuser. Le soir, aller danser ou aller au théâtre. Ne pas se substituer aux forces de l'ordre dans la lutte contre le crime organisé. Notre boulot, on l'a fait en dénonçant le déversement des déchets et la présence d'amiante dans la carrière. On a dénoncé ce qui s'est passé sur le territoire depuis 1994. Combien de terrains ont été pollués à cause de ce milieu de malfaiteurs?
Matteo Brambilla, président d'un comité citoyen à la Rose des Vents, en 2009. Ce sont les collusions entre les mafieux et certains responsables politiques qui expliquent que le scandale des déchets ait duré si longtemps, si tant est qu'on puisse dire qu'il n'existe plus, mais du moins avec cette ampleur dont on a parlé. Fabrice Rizzoli.
Oui, les collusions politiques, évidemment. Quand on voit quelqu'un comme Nicola Constantino, qui était le référent de la droite italienne en Campanie, qui était directement lié aux mafieux et liés au secteur des déchets, ça ne fait aucun doute. Il y a énormément de complicités politiques qui sont démontrées, mais encore une fois, hein, l'idée du système plus général avec un système économique qui alimente tout ça, c'est quand même la clé de compréhension, à mon avis.
Et alors, selon un rapport remis au Parlement en 2007 par les services secrets, le commissariat extraordinaire pour l'urgence déchets qui avait été créé pour répondre à la crise à Naples, selon ce rapport, il y avait des intérêts et des liens qui s'entrecroisaient entre les professionnels chargés de répondre à l'urgence et les mafieux. Et le rapport note notamment l'alarmante familiarité des rapports, pas seulement d'affaires, mais aussi personnels, Clotilde Champérache.
Oui, bien sûr, parce qu'on retrouve encore cette dimension de territoire et de mafia comme criminalité du quotidien. Vous êtes une personne honnête, vous ne pouvez pas ne pas savoir qu'il y a des mafieux sur votre territoire. C'est un interlocuteur forcé.
Et alors sur ce territoire, justement, comment le territoire est quadrillé en quelque sorte par les familles mafieuses concrètement, et notamment comment cet impôt, le pizzo, est-il prélevé?
Alors, le territoire, il est quadrillé parce que la mafia n'est pas une structure unitaire, et c'est encore plus le cas pour la Camorra, qui est assez, justement, incontrôlable, parce qu'il y a des clans qui sont en rivalité forte et un fort taux d'homicide lié à ces rivalités. Les familles sont souveraines sur un territoire. Ce territoire, ça peut parfois n'être qu'une rue, mais cette rue appartient à la famille. Et comment mieux marquer la souveraineté sur ce territoire? C'est en prélevant le racket. Alors, il y a différentes modalités de prélèvement du racket. Ça peut être qu'ils payent tous, éventuellement en payant peu, mais on marque encore une fois le territoire. Parfois, c'est plus ciblé, notamment quand c'est des familles qui contrôlent un territoire le plus large. On va cibler certaines entreprises ou un certain niveau de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant aussi, et c'est très symbolique, c'est que d'après les livres de comptes mafieux que parfois on a réussi à saisir, les sommes sont parfois très faibles. Et d'un point de vue logistique, le rapport, comme diraient les économistes, coût-bénéfice, il est catastrophique. C'est-à-dire que la mafia n'a pas intérêt financièrement à racketter comme elle le fait. Mais elle le fait pour montrer que c'est son territoire.
C'est d'abord un enjeu de pouvoir.
Oui, c'est un enjeu de pouvoir. Et Clotilde Champagne a raison de rappeler la rivalité entre mafieux, parce que parfois, les gros mafieux ont les gros marchés, les petits mafieux sont obligés de fuir. C'est-à-dire que la mafia n'est pas non plus toute puissante, homogène, elle l'a rappelé, pas complètement centralisée. Par exemple, on voit le cas des frères Pellegrino de la mafia calabraise, qui est venu faire du terrassement en France en proposant des bas prix et qui ont pu faire le terrassement dans la ville de Menton. Maintenant, au-dessus du terrassement qu'ils ont fait, la mafia calabraise, il y a la brigade de gendarmerie et la maison de la justice. Mais parce que les frères Pellegrino ne sont pas la cosca principale dont ils viennent de la ville de Seminara. Je voudrais aussi quand même finir sur une petite note objective, parce que le pizzo, il n'est pas prélevé partout, contrairement à ce qu'on croit. Il y a une représentation en peau de léopard, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas, donc il y a des points très très prélevés, il y en a point, il n'y a pas. Et il y a aussi des réalités saines en Italie du Sud. Vous avez les meilleurs outils juridiques au monde, on confisque des biens et on les redonne aux citoyens. Aujourd'hui, vous avez par exemple, sur les 12 000 biens recyclés, 11 coopératives agricoles. Je vous donne ce petit bruit. pour les gens qui nous écoutent.
Alors les auditeurs ne le voient pas, mais c'est un paquet de gâteaux.
C'est un paquet de tarali fait dans les Pouilles, là où pourtant il y a plein de problématiques de déchets, notamment dans le ciment, etc., des constructions et tout. Là, vous avez des coopératives, le bien reste de la propriété de l'État, et vous avez des jeunes qui se mettent en coopérative ad hoc pour cultiver la terre. C'est pas facile de cultiver la terre quand on n'est pas propriétaire et de faire un projet. Des millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un développement économique sain, et ça, c'est la solution contre la mafia.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, Clotilde Champérache, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus tellement de la crise des déchets dans les journaux, mais ça ne signifie pas que le problème est résolu pour autant. On parlait de l'association Les Gambiente, elle publie tous les ans donc ce rapport sur l'état du secteur des déchets en Italie. Ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est que l'emprise de la mafia dans le secteur des déchets est assez stable. En revanche, le nombre d'arrestations pour crimes liés à l'environnement a fait un bond l'année dernière.
Oui, alors il faut dire aussi que le code pénal italien s'est renforcé en termes de éco-délits, éco-reati. Donc il y a encore plus d'enquêtes qui sont menées et plus de condamnations qui tombent. Un chiffre intéressant, parce que ce qui est bien aussi chez Legambiente, c'est qu'ils essaient de rendre parlant hein, les chiffres. Et l'année dernière, enfin en 2017, il y a 4,4 milliards de tonnes de déchets qui ont été séquestrés. Et ils disent que c'est l'équivalent d'une file de poids lourds sur 2500 kilomètres. Donc on voit bien que ces déchets, ils allaient dans des directions inquiétantes et c'est assez parlant comme image.
Un mot de conclusion peut-être Fabrice Rizzoli sur la lutte contre ces mafias qui se jouent aujourd'hui et sur ces succès en demi-teinte peut-être.
Alors je le rappelle, pour moi ce ne sont pas des succès en demi-teinte. Avant il y avait un mort par jour à Palerme, aujourd'hui il y a 5 homicides par an pour 5 millions d'habitants. Donc moi j'estime que la vie d'un homme a un prix, donc si on arrête de tuer c'est déjà un énorme progrès. Ne me dites pas, maintenant, ils ont plus la peine de tuer. Moi, je n'y crois pas. Un homme qui n'est pas mort, c'est un homme qui n'est pas mort. C'est un homme vivant. Et je voudrais dire aussi que ceci est une lutte européenne. J'ai fait passer certains messages, la commission crime, les meilleurs outils juridiques au monde. Moi, je vous invite à reparler de ces problématiques au Salon des livres et d'alerte, les 16, 17 et 18 novembre, à la Maison des Métallos. Il y aura des tables rondes crimalt sur la prohibition des drogues qui, par exemple, est quelque chose qui enrichit les mafias. Et on parlera aussi des problématiques environnementales, pas seulement en Italie, mais aussi en France.
Le message est passé. Un dernier mot avec le titre Champérache, peut-être sur le fait que la domination de la mafia passe désormais, en effet, plus par cette dimension économique que par la violence.
Oui, c'est pour ça que, certes, il y a moins de morts et tant mieux. Mais quand la mafia tue, c'est parce qu'elle est en difficulté. Quand elle ne tue pas, c'est que le business marche. Et là, c'est la preuve que l'infiltration de l'économie légale est bien établie.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler d'un projet de gestion des ordures qui fait polémique.
Absolument, aux portes de la capitale s'élève une cheminée dont s'échappent inlassablement de longues fumées blanches. Mais derrière ces élégantes volutes qui s'envolent vers le ciel se cache en réalité le plus gros incinérateur d'ordures d'Europe. Un titan de métal et de feeu qui engloutit chaque année plus de 700 000 tonnes de déchets. Mis en service en 1969, à une époque où la technique et le progrès régnaient en maître sur nos modes de production, de consommation mais aussi de gestion des déchets, le site arrive aujourd'hui en fin de vie et n'est plus capable de gérer une telle quantité de déchets. Selon l'agence SICTOM qui gère le site, l'exploitation de l'incinérateur pourrait se poursuivre jusqu'en 2023. Au-delà, son fonctionnement poserait de sérieuses difficultés et ne permettrait plus d'assurer le service public de traitement des déchets.
Il a donc été décidé de moderniser le site parisien.
Mais oui, et de prime abord, cela semble d'ailleurs assez naturel. Il faut bien faire quelque chose des milliers de tonnes de déchets produits chaque année par l'agglomération parisienne. Un projet magnifique a donc été dessiné à grand renfort de modélisation 3D reluisante d'esthétique chromée pour que la nouvelle usine s'intègre parfaitement à son environnement. Ici, point de mafia ni de grand banditisme, tout est géré avec force démocratie participative, enquête publique et avis environnementaux. Le projet de modernisation du centre de valorisation énergétique, selon les mots de ses concepteurs, se veut la pointe de la modernité et se présente sous les atours de l'évidence du progrès. En réalité, les premières consultations sur le devenir du site remontent au début des années 2000 et le problème, c'est qu'il semblerait que le projet soit resté bloqué à cette époque. Selon les opposants, la proposition des industriels et institutionnels ne prend absolument pas en compte les évolutions de la société sur la question du recyclage et les obligations de la loi en matière d'économie circulaire.
Des associations ont pourtant proposé un plan alternatif.
Absolument, il s'agit du plan BOM, ou baisse des ordures ménagères, pour les associations Zero Waste France et 3R. Il faut en effet concentrer les efforts politiques et financiers vers une baisse drastique de nos déchets plutôt que de continuer d'investir aveuglément dans des technologies d'arrière-garde. En l'espèce, le coût d'investissement du projet s'élèverait à près d'1,2 milliard d'euros. un argent qui pourrait être mis à profit afin de favoriser le changement des pratiques. Aujourd'hui, 75% du contenu de nos poubelles est envoyé à l'incinérateur alors qu'il est recyclable ou compostable. Le plan BOM repose donc sur les trois leviers que sont la baisse du gaspillage alimentaire, la collecte séparée des biodéchets et le compostage domestique de proximité. Des villes comme San Francisco ont mené de telles politiques, ce qui leur a permis d'atteindre un recyclage de 80% de leurs déchets. Les associations expliquent qu'avec une telle politique, le nouvel incinérateur ne serait tout simplement pas nécessaire. Les ordures résiduelles pourraient être prises en charge par les incinérateurs existants situés à Issy-les-Moulineaux ou à Saint-Ouen. Dernier argument en faveur du plan, il serait bien plus riche en emplois, jusqu'à 61% de plus que le projet d'incinérateur à l'horizon 2030.
Mais ce plan n'a absolument pas été pris en compte par les concepteurs du projet.
Non, l'enquête publique menée entre mai et juin dernier a donné il y a quelques jours un avis favorable au projet de SICTOM, estimant que le projet n'est pas surdimensionné compte tenu des pratiques constatées et des prévisions en matière de tri des déchets, je cite. Une décision pour le moins surprenante du point de vue des associations opposées au projet qui s'étonnent que le rapport ne fasse aucune mention de leur contribution et passe totalement sous silence les objectifs de la loi de transition énergétique qui entend porter le recyclage des ordures ménagères à 65% d'ici 2025. Le projet SICTOM table quant à lui sur 28% de recyclage seulement. Dernier angle mort de ce rapport, l'inquiétude des riverains quant au risque de pollution lié à ces activités. L'incinération produit en effet une série de déchets tels que le mâche-fer ou les résidus d'épuration qui doivent ensuite être envoyés en décharge pour produits dangereux. Et les belles fumées blanches qui rejoignent l'atmosphère contiennent en leur sein plus de 2000 molécules dont une vingtaine seulement sont aujourd'hui réglementées. Mais cela ne semble pas inquiéter outre mesure la commission d'enquête qui vient d'accorder le permis de construire pour le nouvel incinérateur. Une question de progrès donc.
Our city's made of garbage. Our city's made of fakes. Our city's made of monsters. So just take, take, take. Our city's made up of drama. Our city knows the facts. Our city's too filthy to get it back, back. She's my garbage city. She's my garbage city. She's my garbage city. She's my garbage city. Our city's made of money. Our city's made of drugs. Our city's made of lovers who don't love. Love, love. Our city's made of secrets. Our city's dirty as fuck. Our city won't act right unless you play rough, rough, rough. But she's my garbage city. She's my garbage city. She's my garbage city. My garbage city. And I love her, 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 I love her. And I love her, 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 I love her.
Garbage City, Daniel Khatib. Merci beaucoup, Clotilde Champérache, maître de conférence à l'Université Paris 8. Je citerai deux de vos ouvrages aux éditions du CNRS, Quand la mafia se légalise et société du crime. Et merci à vous, Fabrice Rizzoli, enseignant en géopolitique à Sciences Po. Votre livre La mafia de A à Z a été publié aux éditions Timbuktu. À noter que demain, Olivia Gesbert recevra à la grande table Roberto Saviano, donc le journaliste écrivain italien qui avait notamment largement documenté ce scandale des déchets dans son livre Gomorra. Demain, on se demandera si un monde sans déchets est possible. Et en attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.